Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, pour le Club des Idées à 19h20, c'est un grand entretien que l'on vous propose avec une figure de la politique française. Ancien Premier ministre, maire de Bordeaux pendant plus de 12 ans, candidat aussi à la primaire de la droite. Aujourd'hui, il prend la plume pour raconter son Chirac, l'histoire d'une amitié singulière, dit-il, de plus de 40 ans. Il est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Bonsoir Alain Juppé.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fera bientôt un an que l'ancien président Jacques Chirac a disparu. C'était le 26 septembre 2019. J'imagine que vous avez, à l'approche de cette date, une émotion particulière.
Oui, j'ai vécu son départ comme un choc. Je le voyais régulièrement, sa santé déclinait depuis quelque temps, mais évidemment, la séparation est toujours un moment très, très difficile. Et donc, cet anniversaire prend pour moi une signification toute particulière. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 40 ans. Enfin, je l'ai connu en 1976, il était déjà Premier ministre. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de son second mandat présidentiel en 2007. Vous voyez, donc ça fait une longue amitié. Et quand je dis qu'elle est singulière, c'est parce que c'est vrai, il est rare qu'un président et un Premier ministre se fassent confiance jusqu'au bout.
Vous étiez plus que ça, et c'est ce qu'on découvre dans le livre que j'ai vraiment dévoré du début à la fin. Ce sont d'ailleurs les premiers mots de votre livre. « Je suis à la maison à Paris, il est environ 11h, je m'apprête à aller prendre mon train pour Bordeaux, quand je reçois un appel téléphonique de Claude Chirac, la fille donc de Jacques Chirac. Et là vous dites... Je comprends que la fin est proche. Et vous vous rendez à son chevet. Elle vous laisse seule avec lui quelques instants et vous dites, je ferme les yeux, on ne se dit rien, mais notre vie politique commune déroule dans ma tête.
Ce sont des instants qui marquent dans la vie d'un homme. J'avais rencontré Claude Chirac quelques temps auparavant. Elle m'avait donné des nouvelles de son père en me disant, ça va pas bien. Et je vous préviendrai lorsque... On verra approcher les dernières heures ou les derniers jours. C'est ce qu'elle a fait, c'est pour ça que je me suis précipité. Je suis resté là, elle m'a laissé en tête à tête. Il ne parlait pas, comme je l'ai dit. Et voilà, ce silence était extrêmement dense et j'ai vu défiler dans ma tête toutes ces décennies de travail en commun.
Alors on sent évidemment beaucoup d'admiration et un grand respect tout au long de ces 230 pages. Et presque, si j'ose dire, une forme d'amour pour ce lien qui vous unissait sont d'ailleurs vos derniers mots. Vous me manquez. C'est ce que vous lui dites.
C'est vrai. Alors, c'est une amitié, je ne dirais pas qu'elle est politique, parce qu'elle a été aussi très personnelle. Mais en fait, je n'appartenais pas au cercle intime de Jacques Chirac, à son cercle familial. C'était un homme pudique. Moi, paraît-il, je le suis aussi. Donc voilà, on avait des relations qui n'étaient pas très, très expansives. Mais il y avait cette confiance mutuelle qui a été très forte et qui nous a permis de faire des choses ensemble.
Qu'est-ce que vous admiriez le plus chez lui?
Chirac, c'est pas le même en 76 quand je l'ai connu et puis en 2007 quand il s'en va. Donc forcément, dans la vie d'un homme, il y a des périodes différentes. Au début... C'est le chef de guerre.
Oui. Hein,
il est à la tête du parti, il veut conquérir le pouvoir, il mène le combat contre ce qu'on appelait à l'époque le socialo-communisme. Donc, il avait un peu la réputation d'être excessif ou sectaire. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, facho Chirac. J'ai eu beaucoup de mal à décoller cette étiquette. Et puis, une fois, bien des années plus tard, quand il est à l'Élysée, c'est plus le même homme. Il a pris de la densité, de la hauteur de vue, le temps de la réflexion. Donc voilà, j'ai apprécié sa capacité d'action, mais j'ai apprécié aussi, je le dis à la fin de mon livre, sa profonde humanité. Je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué.
Alors lui aussi, vous admirez d'une certaine manière. Et il vous avait rendu un hommage qui est resté célèbre en septembre 93 lors des universités d'été des jeunes du RPR. Vous êtes le meilleur d'entre nous, avait-il dit.
Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé.
Avez-vous été un... Pardon, allez-y Alain Juppé, vous vouliez réagir.
Non, j'allais dire, j'insiste toujours sur l'adverbe « probablement ». Donc il avait mis quand même une petite nuance. Je ne suis pas sûr que cette déclaration m'ait beaucoup servi, parce qu'elle a suscité évidemment beaucoup de jalousie chez ceux qui pensaient que eux, étaient les meilleurs.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre, ça m'a sans doute porté la poisse d'avoir été le meilleur d'entre nous.
Oui, enfin bon.
Vous dites ça avec une certaine malice.
C'est un peu une coquetterie de ma part. Vous cachez que ça m'a fait plaisir, ce serait mentir.
Avez-vous été un bon Premier ministre, Alain Juppé, de mai 95 au 2 juin 97, avec l'issue que l'on sait, la dissolution? Dans votre livre, avec toute la retenue qui est la vôtre, vous dites « c'est un bilan honnête ».
Je suis bien le plus mal placé pour porter un jugement. Je laisse les historiens, ou en tout cas les observateurs de la vie politique, porter un jugement. Ce que je sais, c'est que j'ai aimé cette fonction, qui est terrible. hein, qui est une pression de tous les instants, puisqu'on est amené à prendre des décisions plusieurs fois par jour. Mais en même temps, on a le sentiment qu'on est là où ça se passe et qu'on peut servir son pays. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir fait, pendant cette période de grandes réformes, on voit toujours dans les gencives, si je puis dire, les grandes grèves de décembre 1995.
Mais je ne le ferai pas ce soir.
C'est vrai. Moi, je prends les devants. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une espèce de rupture avec l'opinion. Mais je voudrais insister surtout sur le fait que la réforme qui était en cause à ce moment-là, c'est-à-dire la réforme de l'assurance maladie, je l'ai faite.
Oui.
Et qu'au mois, au printemps de l'année suivante, les grandes ordonnances ont été prises qui restent toujours en vigueur. Il y a eu d'autres réformes qui ont été faites aussi.
Je vous pose la question aussi parce que sur votre bilan, page 163, c'est assez amusant de vous raconter qu'il y a un an, votre présence, Emmanuel Macron, lors d'une cérémonie, a salué une prouesse, car vous aviez réussi à faire ramener le déficit de 6 à 3%. Et vous concluez en disant, comme quoi, la reconnaissance du mérite ne vient pas toujours de vos amis politiques. Alors, d'où ma question, est-ce qu'Emmanuel Macron est l'un de vos amis politiques ?
Comme vous l'avez dit, je suis aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, donc je ne participe plus au débat politique, je ne veux pas redescendre dans l'arène.
Mais dans ce livre, vous racontez aussi pas mal de choses sur votre vision de la France et sur la politique d'aujourd'hui.
Cette péripétie est quand même très importante parce que dans le bilan de mon gouvernement, il y a eu cette action pour faire en sorte que la France se qualifie pour l'euro. Vous vous souvenez, il y avait eu un référendum en 1992. Oui. On avait décidé de faire une monnaie unique, mais pour faire la monnaie unique, il fallait atteindre un certain nombre d'objectifs. Et en 1995, on n'y était pas. En 1997, on s'était beaucoup rapprochés. Et que ce soit Emmanuel Macron qui le rappelle en rendant hommage, à l'époque, il rendait hommage à mon ministre des Finances, qui était Jean Arthuis, et indirectement au Premier ministre qu'il servait.
Bien sûr.
Je dois dire que ça m'a rempli d'aise et un peu amusé aussi en même temps. On a fait aussi beaucoup d'autres réformes dans des tas de domaines, dans la politique de la ville, la politique du logement. C'est là qu'on a inventé le prêt à taux zéro. Bref, je ne vais pas me remettre ici à faire un bilan, mais je ne rougis pas du travail qu'on a fait ensemble, même si les élections de 1997 ne nous ont pas été favorables.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est toujours en direct dans le studio d'Europe Soir avec un grand entretien exceptionnel ce soir avec Alain Juppé, ancien Premier ministre, maire de Bordeaux pendant plus de 12 ans, chacun le connaît, une figure de la classe politique. Vous voulez...
Juste une petite remarque, j'ai été maire pendant 22 ans.
22 ans, pardon.
Il y a eu une petite interruption, mais au total,
vous avez
ça fait 22 ans.
Vous avez raison de me corriger.
Pardon.
22 ans. Il est avec nous, vous l'entendez, pour parler de son Chirac. Il publie un ouvrage sur sa relation particulière avec Jacques Chirac. Et il y a des épisodes sur lesquels vous revenez dans ce livre, Alain Juppé, comme cette déclaration qui avait d'une certaine manière choqué à l'époque, le bruit et l'odeur qu'avait prononcé Jacques Chirac. C'était le 19 juin 1991, lors d'un dîner-débat à Orléans.
Un travailleur français qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou.
Voilà, il l'avait d'ailleurs regretté, Jacques Chirac, cette phrase, car il était profondément contre toutes les formes de racisme. Lui-même disait au micro de Jean-Pierre Elkabbach, ici même, en 2009, que c'était une forme de bêtise.
Dans une vie politique, on n'évite pas de dire des bêtises de temps en temps. Eh bien, quand on a dit une bêtise, il faut le reconnaître. C'était un propos malheureux que je n'aurais pas reproduit et que, bon, qui m'est venu spontanément. Et c'était une bêtise, voilà.
Il vous en avait déjà parlé, Alain Juppé, en ces termes.
Il m'arrive d'être en désaccord avec Jacques Chirac, vous voyez, je ne pense pas que c'était une bêtise, c'était une vérité. Parce qu'il faut voir dans quel contexte il a dit cette phrase. C'était après avoir visité avec moi un quartier que vous connaissez peut-être, dans Paris, la Goutte d'Or.
Oui, le 18e arrondissement dont vous étiez
élu. J'ai été élu pendant 12 ans, je n'étais pas tout à fait maire, enfin j'en ai été député et je m'occupais beaucoup de ce quartier. Pendant 12 ans, effectivement. Et la Goutte d'Or était un quartier extraordinairement difficile. Il l'est toujours,
d'ailleurs. Il l'est toujours.
Il l'est toujours, avec des problèmes de sécurité, de drogue. Et donc, la réalité que décrit Jacques Chirac, c'est bien la réalité. Alors, à partir de ce moment-là, on se voile la face ou on la regarde en face. Et quand on la regarde en face, il y a aussi deux attitudes possibles. Ou bien la stigmatisation, ou bien on essaye de faire changer les choses. Et on a profondément investi dans ce quartier pour rénover l'habitat, pour créer des équipements publics. Et je voudrais faire deux commentaires à ce propos. Le premier, vous l'avez déjà amorcé, c'est d'abord que Chirac a toujours été totalement allergique à toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle il l'a tenu bon, ça nous a parfois coûté cher, pour refuser toute alliance avec le parti de Jean-Marie Le Pen. Et puis,
c'était deuxième... sa colonne vertébrale politique.
Absolument, alors que dans notre propre parti, il y avait quelques...
Absolument.
hésitations à ce sujet. Et puis deuxièmement, j'insiste beaucoup sur ce point dans mon livre, Chirac était profondément humaniste, profondément attentif à la situation des gens modestes et fragiles. Alors quand on parle de Paris, on parle du bruit et de l'odeur. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'on parle jamais d'une des initiatives majeures qu'a prise Chirac, c'est la création du SAMU social.
Oui. Hein,
avec Xavier Emmanuelli, qu'on a qualifié d'une sorte de saint laïc. Et j'ai été témoin de ce que ça a apporté pour les personnes en difficulté dans les rues de Paris. Il a fait ça avec beaucoup de conviction, beaucoup de moyens, à une époque où on n'y croyait pas beaucoup. Hein. Donc voilà, ça aussi c'est à mettre à l'actif de Jacques Chirac.
Alors vous revenez aussi dans ce livre sur votre relation avec deux hommes qui ont aussi marqué la droite, parce que vous parlez quand même de vous à travers la figure.
Beaucoup, je le reconnais.
À travers la figure de Jacques Chirac. Dominique de Villepin, par exemple, vous dites « C'est un homme brillant, excessif, mais d'une créativité exceptionnelle. Je lui voue une forme de pudique affection. » Alors, une question me vient, non pas sur Dominique de Villepin, mais sur ce mot, pudique affection. D'où vient cette pudeur qui vous entoure, Alain Juppé ?
Bon, ça, on ne se change pas. Que ce soit, moi, je viens d'un milieu qui n'était pas modeste, mais enfin, disons, de petite bourgeoisie provinciale. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert tout un monde. Donc, j'étais timide. Je le suis resté très longtemps. Donc,
parce que vous le dites aussi au début de votre livre, vous dites « Votre réserve naturelle qui m'a valu ma réputation de froideur ».
Oui, il paraît que je fonctionnais comme un ordinateur. Alors, voilà. Non, c'est très bien. Ce qui m'a fait marrer souvent, c'est qu'après chaque émission de télévision,
oui.
Parfois j'en réussissais.
Hein, oui,
pas toujours,
oui.
Mais parfois, c'était toujours le même commentaire de la part des journalistes. Juppé a fendu l'armure.
Oui.
Sauf que ça recommençait la semaine d'après.
Oui.
Et donc je me disais que décidément, j'avais le don de reconstituer l'armure.
Mais je vais raconter une anecdote concernant fendre l'armure. J'ai eu l'occasion de faire un reportage, je vous ai suivi pour l'émission des Paroles et des Actes, c'était il y a 5 ans. Vous m'aviez dit à l'époque à Bordeaux, pourquoi voulez-vous que je fende l'armure? Les Français connaissent mes convictions et ma politique, le reste est accessoire. Est-ce que vous le pensez toujours ça?
Non, le reste n'est pas accessoire. Non. Quand on veut faire une carrière politique, quand on veut assumer des responsabilités politiques, il faut aussi se faire accepter, voire se faire aimer. Peut-être que je n'ai pas eu suffisamment cette préoccupation. Encore que, vous voyez, on n'est pas réélu 5 ou 6 fois comme je l'étais à Bordeaux, et la dernière fois en 2007 avec un score au premier tour de plus de 62%, si on n'arrive pas à créer une forme d'empathie avec sa population. Je crois...
Mais c'est plus facile quand on est, si je puis me permettre, en terrain connu.
Vous avez raison. Oui, c'est plus facile, notamment au niveau local. Les maires sont toujours souvent appréciés. Mais enfin, voilà, je pense que ça fait partie aussi de l'engagement politique. Il faut avoir le goût des autres et la volonté de se faire comprendre et aimer des autres.
Alors, j'insiste aussi là-dessus, Alain Juppé, parce que j'ai découvert votre facétie dans une vidéo très drôle que vous aviez faite pour une émission de télé il y a bien longtemps. Alain Juppé en lunettes noires qui interview Alain Juppé, ça donne ça.
Tu changerais quoi en toi si t'avais une baguette magique? Ah, je me donnerais peut-être la chevelure de Robert Redford. Il ressemblait à qui quand t'étais petit?
Quand j'étais petit, sans doute à Napoléon.
Tu crois que tu seras président de la République un jour?
On peut toujours rêver.
Caille, Normal Sup, La Grecque, Sciences Po, l'ENA. Tu crois pas que t'as été un peu trop longtemps à l'école pour diriger un mouvement qui veut retrouver ses assises populaires?
Moi, j'en viens du peuple. Et puis j'ai bossé. On me les a pas donnés tous ces diplômes.
Si t'étais le maître du monde, tu ferais quoi en premier?
Faire en sorte que les gens ne se chapouillent pas pour des questions subalternes. Toi, c'est un grand rêve.
Peut-être que si les Français, Alain Juppé, vous avaient connu comme ça, peut-être seriez-vous aujourd'hui président de la République?
On ne sait jamais, mais vous savez, il y a un de vos humoristes le matin,
Nicolas Canteloup,
sur votre chaîne, qui considère que le rire et Juppé, c'est deux choses antinomiques. Or, il m'est arrivé de rire et même de fréquenter les grosses têtes du temps de Philippe Bouvard et de faire rire. Vous voyez. Donc, les personnalités sont parfois plus complexes qu'on ne pense.
On vous croit sur parole. Et puis, il y a Nicolas Sarkozy, dont vous racontez votre première rencontre, page 27. Tignasse en bataille, verbe exubérant, cordialité calculée. Il m'impressionne d'emblée, dites-vous. Mais vous n'avez pas toujours dit ça de Nicolas Sarkozy. Vous avez été opposé. Jacques Chirac, d'ailleurs, à la fin, était en froid avec lui. Tout le monde le savait.
C'est une longue histoire.
Il a critiqué votre concept d'identité heureuse aussi, Nicolas Sarkozy.
C'est une longue histoire avec Nicolas Sarkozy, donc je l'ai découvert très tôt, hein, en 1976, vous le rappelez, il devait avoir 22 ou 23 ans, j'en avais 32 ou 33. J'étais tout de suite impressionné par l'énergie extraordinaire qui s'est dégagée de sa personne. Et nous avons très longtemps travaillé ensemble en confiance avec... une forme peut-être de considération mutuelle. Hein. Quand j'étais secrétaire général du RPR, il était mon secrétaire général adjoint, etc. Enfin, on a fait énormément de choses ensemble. Je me rappelle même ce déjeuner à Bordeaux en, 1999, je crois, où il me propose de constituer un binôme pour repartir à la conquête du pouvoir.
Oui.
J'ai cette phrase malheureuse en lui disant « Mais tu n'as pas l'impression qu'on va passer pour des losers, toi et moi ?» Parce qu'il venait de sortir d'une élection européenne catastrophique et moi, j'avais perdu les élections de 97. Et alors, l'idée pour lui d'être un loser ne lui effleurait pas l'esprit.
On imagine bien. Mais sur cette histoire d'identité heureuse, Alain Juppé, c'est un concept que vous regrettez d'ailleurs. Aujourd'hui, on en semble loin avec cette question de séparatisme, la montée du communautarisme que vous évoquez d'ailleurs à la fin de votre livre. Est-ce que finalement vous dites aujourd'hui l'identité heureuse, non, je me suis trompé, elle n'existe
non,
pas.
Non, je ne le regrette pas. Il faut voir ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les Français, tous les Français sont heureux. Hein, pour avoir été élu dans des quartiers souvent difficiles, dans des villes aussi complexes que Bordeaux, qui n'est pas une ville où il n'y a que des bourgeois, hein, il y a aussi des classes populaires. J'ai bien conscience de la souffrance de beaucoup de Français, et tout particulièrement aujourd'hui. Mais je n'imagine pas qu'un homme politique puisse reconquérir la confiance de ses concitoyens en leur disant « Demain, vous serez plus malheureux qu'aujourd'hui ». S'il n'y a pas quelqu'un pour leur dire « Il y a une chance de s'en sortir. Le bonheur est un objectif qu'on peut se fixer ensemble. On peut améliorer la situation tout en restant nous-mêmes. Ben » Alors, ce n'est pas la peine de faire de la politique. C'est ce que j'ai voulu dire avec l'identité heureuse. J'étais mal compris.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on est toujours avec Alain Juppé pour le grand entretien du Club des idées. Alain Juppé qui sort son livre « Mon Chirac, une amitié singulière ». C'est un livre... assez intime sur votre relation si particulière avec Jacques Chirac. Est-ce que d'ailleurs on peut dire que c'était votre mentor ?
D'une certaine manière, oui, bien sûr. C'est lui qui m'a lancé en politique. Quand je l'ai connu, il était Premier ministre. J'étais jeune fonctionnaire. C'est pour ça qu'on se vous voit d'ailleurs.
Parce oui, que, oui.
Un jeune fonctionnaire ne tutoie pas le Premier ministre. Donc, il m'a donné toutes mes chances. Je l'écris quelque part dans ce livre. Je crois que je lui ai renvoyé l'ascenseur aussi en le servant en de nombreuses circonstances, en essayant de lui apporter ce que je pouvais lui apporter. Je pense que si ce qu'il a fait nous interpelle pour l'avenir. Hein. Dans son action, il y a aujourd'hui un certain nombre de messages qui restent plus actuels que jamais. Permettez-moi d'en évoquer un. C'était en 2002, si je me souviens bien, qu'il fait cette déclaration qui a marqué « La maison brûle ».
On va l'écouter si vous le voulez bien.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'admettre. La terre et l'humanité sont en péril.
Voilà, la maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était effectivement Alain Juppé en 2002 au sommet de Johannesburg.
Et aujourd'hui,
Jacques Chirac visionnaire, mais on a envie de se dire, 20 ans après, les choses n'ont pas beaucoup évolué malheureusement.
La Californie brûle, la Sibérie brûle, le Brésil brûle.
Et nous regardons toujours ailleurs.
Est-ce qu'il ne s'est rien passé ? Chirac a agi dans ce domaine. Je rappelle que le dernier acte de son deuxième mandat présidentiel, en janvier ou février 2007, a consisté à organiser à Paris un sommet des citoyens de la Terre pour essayer de créer une organisation mondiale de l'environnement. On n'y est pas parvenu parce que l'idée a été ensuite abandonnée. Mais je voudrais insister sur autre chose. Chirac, vous le savez, a fait introduire dans notre Constitution le principe de précaution. Et aujourd'hui, dans le bloc de constitutionnalité, comme on dit, c'est-à-dire les règles fondamentales de la République française, dont nous vérifions, nous, au Conseil constitutionnel, qu'elles sont respectées par le législateur, il y a la Charte de l'environnement qui édicte un certain nombre de principes et nous jugeons de la légalité des lois en fonction de cette charte. Nous avons rendu, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une décision qui fait référence à la protection de l'environnement.
Et on peut rappeler de ce point de vue-là que Pompidou a été, parce qu'on l'oublie souvent, a été le premier ministre, a été le premier président à avoir un ministre de l'environnement.
Avec mon ami Poujade qui a disparu il y a peu de temps. Mais je veux dire simplement que cette charte de l'environnement, elle va prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent. Je suis persuadé que nous aurons à nous prononcer sur la conformité des lois à ce qui constitue une espèce de guide pour l'action.
Oui, mais c'est une question importante que vous soulevez. Est-ce que sur l'écologie, on en parle beaucoup en ce moment, peut-être à tort, est-ce qu'on en fait trop, pas bien ou pas assez ?
Écoutez, moi je ne veux pas redescendre dans l'arène politique et juger les uns et les autres, mais en tout cas ma conviction personnelle, c'est qu'on n'en fait pas assez. C'est que ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas la survie de la Terre, c'est la survie de l'humanité.
Oui.
Hein ? Est-ce que nous avons encore, en tant qu'espèce humaine, un avenir durable ? Donc la question se pose véritablement et je crois qu'il est plus que jamais nécessaire d'agir. Alors, les gouvernements ont leurs responsabilités au niveau international, l'Europe, mais nous avons, vous et moi, chacun d'entre nous, une responsabilité tout à fait directe. Mais voilà, ça commence à bouger, il y a une prise de conscience et très souvent, nous nous faisons questionner par nos jeunes qui nous disent « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et quelle est la terre que vous allez vous laisser ? Donc, ça va commencer à bouger, j'en suis sûr, il faut aller plus loin.
Qui est aujourd'hui, Alain Juppé, l'héritier de Jacques Chirac ? Tout le monde se revendique aujourd'hui, on C'est amusant de le souligner,
c'est
du gaullisme
grand
social. Mais qui est l'héritier de Jacques Chirac aujourd'hui?
Je ne sais pas qui est l'héritier, peut-être les Françaises et les Français. Souvenez-vous de l'émotion qui nous a saisis tous lorsqu'on a annoncé sa mort. Bon, ce n'est pas la première fois que la disparition d'un chef d'État provoque une émotion, mais une émotion aussi profonde, aussi générale, et qui a dépassé les frontières de la France, montre oui. qu'il incarnait quelque chose de très puissant. Je raconte cette anecdote qui m'était arrivée au Havre, je crois, il y a un an, évidemment, juste après la mort de Jacques Chirac, où je rencontre un jeune de 18 ans qui vient vers moi et qui me fait part de son émotion. C'était juste après la mort de Jacques Chirac, le 26 septembre de l'année dernière. Et je lui dis, mais enfin, vous n'avez pas connu Chirac comme président, hein, vous avez 17 ou 18 ans.
Ouais, vous le racontez
qu'est-ce,
dans le livre.
Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il me fait cette réponse qui m'a stupéfié. Il me dit, pour moi, c'est la France. Voilà. Donc, il incarne cela.
Vous parlez du Havre, est-ce que, pardon, mais je suis obligé de vous poser la question, est-ce que Édouard Philippe, par exemple, peut être un héritier du gaullisme social façon Jacques Chirac?
J'ai dit tout le bien que je pensais d'Édouard Philippe. Je pense que c'est une valeur sûre pour la France, mais enfin, je ne vais pas me lancer dans des tests comparatifs, dans la perspective des débats politiques qui viennent.
La relation que vous avez avec lui, elle n'est pas comparable à la relation que vous aviez avec Jacques Chirac?
Inversé, puisque c'est moi l'aîné. Là.
Bien sûr, j'entends. C'est ce que j'entends.
La même chose. Mais dans l'héritage de Chirac, vous évoquiez, donc j'ai parlé de cette sensibilité à la cause environnementale, j'ai parlé de son humanisme. Il y a aussi cette idée que il faut respecter la diversité des cultures du monde. Ça, je crois que c'est très important. Et une de ses belles réalisations, c'est le musée qui porte son nom désormais, qui est Branly-Jacques Chirac,
oui.
où sont exposées des civilisations que nous connaissions mal et qu'il nous a révélées, asiatiques, extrême-orientales, amérindiennes ou africaines.
Et j'ajouterais, Alain Juppé, dans l'héritage de Jacques Chirac, il y a aussi l'esprit de la République. Car il était viscéralement attaché aux valeurs de la République. Il y a un clip qui a été diffusé par l'Élysée il y a quelques jours à l'occasion de la célébration au Panthéon par Emmanuel Macron de la République, Gambetta. Et voici ce que disait Jacques Chirac qui a été repris dans ce clip diffusé par l'Élysée.
La France n'est pas et ne sera jamais une mosaïque de communautés où les particularismes l'emporteraient sur l'intérêt général et l'unité nationale.
Est-ce que vous trouvez que de ce point de vue-là, on a échoué? Je vous pose la question parce que, à la fin de votre livre, vous faites cet aveu. Pourquoi avons-nous collectivement échoué à répondre aux aspirations de notre peuple? Nous, les dirigeants successifs de notre pays, toutes tendances confondues, de nombreuses réformes ont été menées depuis 20 ans, mais à l'évidence, ça n'a pas suffi. Et ça rejoint ces propos qu'on vient d'entendre
vous
de Jacques
dit,
Chirac.
Jacques Chirac est avant tout un républicain, par formation, par héritage, si je puis dire. C'est le legs qu'il a reçu de ses grands-parents et de ses parents et de sa formation. Et il a été intraitable sur les principes républicains tout au long de sa vie. Aujourd'hui, sans me lancer dans un débat politique, je ne peux que constater le trouble qui saisit l'opinion publique. Notre démocratie est contestée, la démocratie représentative est en cause, les valeurs de la République sont en cause. Or, ces valeurs, elles sont simples à résumer, hein. Liberté, égalité, fraternité, j'ajoute laïcité. Pour moi, c'est un principe absolument fondamental dont il faut bien voir la complexité. La laïcité, c'est le respect de la liberté de religion. Vous êtes libre, je suis libre.
Et elle est en péril aujourd'hui, cette laïcité?
Je ne dis pas, mais enfin, c'est un principe fondamental de choisir sa religion et de la pratiquer ou de n'en avoir aucune. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la laïcité a un deuxième versant, un deuxième visage. C'est qu'aucune religion ne peut imposer sa loi à la République. Je ne sais plus qui a eu cette formule que je trouve très belle. La foi ne fait pas la loi. Donc la religion, c'est dans l'espace privé, et aucune religion ne peut remettre en cause les principes républicains, en particulier un de ses principes fondamentaux qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et également le principe fondamental selon lequel la souveraineté vient non pas de Dieu, mais du peuple. Voilà ce qui est en cause aujourd'hui dans la défense des valeurs républicaines. Et là, je pense que Chirac a été et serait tout à fait intraitable.
Vous avez vu ce sondage, Alain Juppé, 82% des Français veulent aujourd'hui, disent-ils, un vrai chef, comme le disait Jacques Chirac, un chef. C'est fait pour cheffer.
Ouais, ben les Français sont
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce
les
sondage?
Les Français sont un peuple extrêmement compliqué, parce qu'ils veulent tout et son contraire. Ils veulent exercer eux-mêmes le pouvoir, c'est l'exigence de démocratie participative,
oui.
Il faut tirer maintenant les responsables au sort, pourquoi pas, je l'ai fait à Bordeaux, et en même temps ils veulent un chef. Je pense d'ailleurs que les deux choses sont tout à fait compréhensibles. Nous avons besoin de participer à la décision, mais il y a un moment où quelqu'un doit trancher et exercer l'autorité. C'est un point d'équilibre difficile à trouver.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, on est toujours ensemble dans le Club des Idées. Après le grand entretien avec Alain Juppé, on va maintenant plonger dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Sébastien Saldoni.
Bonsoir.
Alors Alain Juppé est toujours avec nous, il va écouter la chronique Le Jour Où sur Jacques Chirac. Jacques Chirac et les Guignols, qui s'est imposé comme un personnage à part entière de la vie politique. Les Guignols en ont fait à la fois un personnage sympathique et un peu quand même leur tête de turc.
Oui, c'est le début des années 90, le bébé de chaud devient poussiéreux, les Guignols de l'info s'emparent de la campagne présidentielle et une marionnette s'ennuie au fond de l'hôtel de ville de Paris. Il lui reste 2 ans à attendre l'élection de 1995.
Ah putain, 2 ans.
Son boulot dedans 2 ans. Putain, 2 ans à feuilletonner la rivalité des deux candidats de la droite, les amis de 30 ans, jusqu'au premier sondage donnant Édouard Balladur perdant.
Ouais, putain, j'ai niqué couille molle.
La caricature du bon vivant est poussée à l'extrême. Bière à l'apéro, tête de veau en plat de résistance et en dessert, des pommes. Le pommier utilisé par son équipe sur un document de campagne devient le seul et unique argument d'une marionnette qui veut à tout prix se faire élire.
Compagnon, mangez des pommes !
Une marionnette qui marque jusqu'aux acteurs de la vie politique eux-mêmes, puisqu'elle s'invite dans le débat.
Évidemment, le Chirac sympathique qui roule en CX, ça fait de l'ombre à la concurrence. Le 22 mars 1995, nous sommes à 1 mois du premier tour et voilà comment Michel Rocard, pas le plus rat des pâquerettes de l'époque, voilà comment il parle des militants RPR dans un meeting du Parti Socialiste.
Pardonnez leur écart de conduite. Ils sont prêts en plus à se gaver de tête de veau, vous avez vu ça ? Et à manger des pommes, sans les éplucher, et même avec la queue et les pépins.
Mais voilà, critiquer, c'est peine perdue. Le gimmick des Guignols efface toutes les turpitudes du candidat. Et Jacques Chirac comprend très vite que c'est un atout dans sa campagne.
C'est la communication moderne. C'est l'indépendance de la dite communication. Par conséquent, quand on ne peut rien faire à l'égard d'un phénomène, eh bien, il vaut mieux le supporter. Et je le supporte, je dois dire, sans souffrir.
Je vois que ça fait sourire Alain Juppé qui réagira dans quelques secondes. Alors les Guignols ont contribué à rendre Jacques Chirac sympathique. Certains disent même qu'ils auraient contribué à son élection, mais les Guignols n'ont pas épargné le Chirac président. Ça, c'est une autre histoire.
Une fois élu, il est même devenu leur cible favorite. Chirac, le grand plein de nerfs, plein de tics, roi fainéant, survêtement avachi, sur les canapés de l'Élysée après l'épisode de 1997.
Je voulais dissoudre l'Assemblée. J'ai des sous la droite.
Et puis il y a les affaires en filigrane de la galaxie Jacques Chirac, les emplois fictifs de la mairie de Paris, du RPR, les détournements de fonds. Tout cela inspire un nouveau personnage aux auteurs des Guignols, celui d'un Jacques Chirac à peine masqué. Super menteur, un Chirac qui promet monts et merveilles à ses interlocuteurs, s'emparant de valises de billets à coups de pistolet, le tout coaché par sa fille Claude, lorsque son épouse Bernadette est décrite comme un faire-valoir qui subit les humeurs de son mari. Pourtant, Yves Lecoq, la voix de Jacques Chirac dans Les Guignols, confiait l'an dernier dans ce studio à Nathalie Lévy que le clan Chirac ne leur en a jamais voulu.
Aucune pression, et c'est pour ça qu'à la fin, quand il a quitté la présidence, j'ai voulu quand même aller lui serrer la poigne, parce que sans vouloir lui faire un compliment, il nous a quand même bien laissé tranquille.
Au final, tout le monde se réjouissait lorsque cette marionnette se pointait à l'écran. Tout le monde, sauf peut-être le marionnettiste qui reconnaissait volontiers que c'était plutôt sportif de faire vivre ce personnage agité.
Merci Jean-Sébastien. Votre réaction, Alain Juppé ?
Les choses ont évolué avec le temps. C'est vrai qu'il y a une certaine période, et les Guignols ne l'ont pas ménagé, mais il avait le sens de l'humour, n'est-ce pas ? Et à la fin, je dirais qu'au total, le bilan est positif. Et ça faisait ressortir quelque chose qui est profondément vrai et que j'ai ressenti pendant des décennies, 4 décennies, c'est qu'il était sympa.
Il était sympa. Il était un peu comme dans la première partie, c'est-à-dire
oui, c'est ça.
Bon français, bon vivant.
Son vrai naturel, une espèce de spontanéité, parfois de rudesse aussi, mais d'humanité. La façon dont il s'intéressait aux gens en difficulté, pas pour la presse, pas pour la télé, pas pour être repris au journal télévisé du soir, mais parce qu'il y pensait sincèrement, m'avait toujours beaucoup ému.
S'il était en face de vous, là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Bon, ça se terminerait, c'est lui qui me dirait, allons boire un bon gin pour terminer la soirée. Voilà.
Et vous accepteriez volontiers. Merci infiniment Alain Juppé d'avoir accepté de vous prêter au jeu du grand entretien du Club des Idées. Merci Alain Juppé, 19h57.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, on retrouve Émilie Mazoyer pour la musique et son émission. Et avant ça, le rappel des titres avec l'info. Et nous, on se donne rendez-vous, même lieu, même heure. Demain, pour le 18-20, on écoute Le Monde Changer, évidemment, sur Europe 1, avec le Club des Idées. À demain, ciao.